Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Chers auditeurs, demeures et familles, aujourd'hui vous invite à fermer les yeux et puis nous allons nous rendre place Sainte-Scarbe et puis à Seille en compagnie de nos deux guides préférés Michel de Rivoire et Aline Thomazin pour rencontrer la famille Dubourg.
À la place Sainte-Scarbe, dans le quartier de Saint-Étienne.
Grand quartier parlementaire, on n'en sort pas.
Alors on touche un petit peu aux limites, au nord du quartier parlementaire. Mais cette place Sainte-Scarbe, Aline, a une autre appellation ou bien c'est vraiment l'appellation d'origine? Alors, de ce que j'en connais, toujours de notre cher Jules Chaland, qui nous suit un petit peu, qui a beaucoup de lacunes dans ses descriptions. Enfin, c'est vraiment la source pour connaître l'histoire des lieux. Eh bien, il parle d'une place de l'Orbe Sainte-Carbes. Et en fait, musicalement, c'est devenu la place Sainte-Scarbe. Mais je ne crois pas que je ne vois pas de statut de cette sainte.
Il y a plusieurs interprétations. Bon.
Voilà, en tout cas.
Mais bon. Place de l'égalité sous la Révolution.
Ça met tout le monde d'accord. Et aujourd'hui, elle fait face à la rue Perchepinte, à l'autre bout de la rue Vélade que nous avons visitée la semaine dernière, enfin la fois d'avant. Et elle est également à l'angle de les rues Fermat et Saint-Jacques. Et cet angle a une particularité quand on lève les yeux devant cet hôtel que nous visitons aujourd'hui, l'hôtel Dubourg. Eh bien, cet angle a une particularité, c'est qu'il supporte, ou plus exactement cette façade, il y a un balcon très ouvragé, tenu par des consoles en pierre très ouvragées, la serrurerie également très travaillée. Et c'est très rare parce qu'un pan coupé de cette nature sur une place publique, tout près de la cathédrale, nous venons de le dire, on est tout près de la place de Saint-Étienne, eh bien, passer des processions. Jusqu'à un passé pas si lointain que ça. Et donc, c'était une demande spécifique du commanditaire d'avoir cette disposition. Et elle avait été acceptée par les capitouls. Donc, cette famille Dubourg, elle va changer de nom, mais elle est toujours présente de nos jours, la famille, dans cet hôtel, est un exemple, on peut le dire, unique, à notre connaissance en tout cas, et aussi reconnu d'une famille qui possède à la fois des biens urbains et des biens ruraux dans le pays toulousain et qui sont restés depuis l'origine dans la même famille.
Les deux ayant été conservés dans la même famille.
Exactement.
Ça, c'est très rare.
Avec les archives, les portraits. Ouais. Enfin. Alors, s'il y a une autre famille, enfin, une autre propriété, que nous étudierons, j'espère, qui est au village de Lara, et qui est un peu plus récente. Elle a un siècle, cette propriété, et nous ne connaissons pas à ce jour, mais je vais l'étudier, l'hôtel de la famille Tournier de Vaillac, donc seigneur de Lara, mais pareil, qui a conservé tout son mobilier, toute son histoire.
Ce qui est très intéressant, c'est depuis toujours, on échange là-dessus, mais d'avoir finalement l'écho entre ville et campagne.
Et oui, parce que ça nous donne d'abord, ça permet de sortir un peu de Toulouse, ça permet de comprendre, de relier certaines... ou répondre en tout cas à certaines interrogations que nous avons les uns les autres. Et puis, c'est pas pour... Je connais ces familles, mais on n'est pas dans le domaine de la fierté ou de la représentation.
Oui,
on est dans le domaine du témoignage. Et si possible, nous sommes dans une radio chrétienne, de partager toutes ces beautés, quand il y en a, et quelquefois aussi tous ces détours de l'histoire personnelle ou collective qui ne sont pas toujours heureux.
Voilà. Et tout cet engagement, pour conserver.
Et voilà, parce qu'il faut être, on vit dans le 21e siècle, on est ancré dans les réalités. Et donc, merci à cette chronique, n'est-ce pas, Aline et Sébastien, de permettre de le rappeler. Donc, l'hôtel Dubourg est construit pour un seigneur de la Pérouse qui s'appelle Léonard Dubourg, en un seul mot. La Pérouse, au nord-est, en allant vers Albi, de Toulouse. C'est une jolie propriété qui, on le dit au passage, sera acquise par Picot de la Pérouse.
Un grand
bonhomme du tout début du 19e siècle.
Explorateur, navigateur.
Ah, ça, c'est certainement un homonyme, parce que celui-là est à Albi.
Ah, c'est pas le même.
Et celui dont nous parlons, c'est celui qui a créé le Jardin des Plantes, entre autres. Oui. Mais c'est une famille de capitouls et qui a été très en tout cas très importante pour le renouveau des institutions au tout début, après la Révolution. Donc il est marié en 1653 à Barthélemy de Gramont, qui doit lui apporter, une belle famille aussi de parlementaires, ce qu'il faut pour construire cet hôtel.
Dans la période de construction, nous sommes...
Au milieu de la deuxième moitié, 1683, au milieu de la deuxième moitié. Il a mis un peu de temps. Il a acquis en 1650, il a mis un peu de temps à la bâtir. Parce qu'en fait, on a dû lui dire, voilà, vous avez l'occasion de construire un des premiers modèles d'escalier, le bel escalier à un seul étage, pour desservir étage.
Oui.
Alors que jusque-là, dans les parties classiques, on a l'escalier de fond en comble qui dessert le aussi bien la cave au grenier et qui est parfois utilisé par les domestiques. Là, on a l'escalier d'honneur. Et ce sont des modèles, comme tout le monde nous le rappelons, importés de Paris et de la région, en tout cas du nord de la France. L'hôtel a d'autres particularités, mais on n'a hélas pas le temps de s'y attarder. Il est aujourd'hui occupé de façon, on dit bourgeoise, c'est-à-dire des appartements loués, la famille se réservant le corps de logis qui fait face au porche d'entrée. Le seigneur de la Pérouse va faire un mariage décisif, à la fois pour la propriété de Paris, de Toulouse, mais également pour celle de la campagne, c'est-à-dire de Seille, puisqu'il épouse en... l'année de début des travaux, Catherine de Lombraille, qui est la petite-fille de Pierre-Paul Riquet. C'est-à-dire que sa mère était la Marie de Riquet.
Nous retrouvons la
famille. Et je salue au passage, si Ami nous écoute ou dans sa famille, le docteur Henri de Roaldès, qui est l'infatigable président des Amis de Toulouse et de Riquet de son canal. Voilà, et bien c'est la ligne directe, le faisceau qui nous mène directement au créateur du canal. Ce couple a un fils qui est Jean-Mathias Dubourg, qui rajoute Cavaigne à son nom, sans doute d'une seigneurie, comme nous le disons à chaque fois, la belle seigneurie du moment. Mais il est surtout le père d'un Valentin Dubourg, et ça nous allons nous attarder rapidement, parce que le temps manque, sur ce ménage du XVIIIe siècle, en plein milieu du XVIIIe, le début des philosophes et des Lumières, si vous voulez, à Toulouse. Et c'est ça qu'on aimerait, dans ces chroniques, faire valoir. C'est-à-dire que chacun a leur jour dans ce théâtre, aujourd'hui bien fermé, bien aux lumières bien éteintes, on retrouve des personnages, imaginez-les, vous avez des gravures, des images, voilà, et qui reçoivent la fine fleur des philosophes, mais aussi des gens complètement obscurs aujourd'hui. Il faut vraiment se plonger dans la littérature pour les faire émerger. Et je veux parler donc de Valentin Dubourg, seigneur de Rochemontès, et d'Élisabeth d'Aliès, dame de Mondonville.
Qui est son épouse.
Oui, et aujourd'hui, c'est la clinique des Cèdres qui était la propriété familiale, voyez, à Cornebarieux. Et ce ménage va recevoir dans cette propriété magnifique, qui a déjà presque un siècle, au milieu du XVIIIe, une propriété bâtie acquise des Chalvet, par mariage, mais elle c'est une construction du deuxième moitié du XVIIe. Et là, ils vont créer un jardin extraordinaire qui est très bien décrit, notamment dans les chroniques d'un certain Martiniste, dont je cherche le nom, mais je ne le trouve pas aussi vite que je le voudrais, mais les Martinistes. C'est une chapelle, disons, du monde, du cercle, des cercles philosophes et maçonniques, proches en tout cas, qui cherchent en tout cas à améliorer le sort des gens en cette fin du XVIIIe siècle, en cette fin d'Ancien Régime. Et il se prend d'amitié, où il est en tout cas intégré dans la famille Dubourg de Rochemontès. Et là, ça donne lieu à des descriptions très savoureuses des extérieurs du jardin. Pour ceux qui connaissent Rochemontès, qui est également très ouvert.
Avec une belle orangerie.
Qui est un mariage séminaire et autres. Un jardin très accueillant pour toutes sortes d'événements, de récitals de piano, mais aussi de défilés, pas de mode, mais enfin de costumes, enfin plein de choses. Ils font, voilà, encore une autre illustration dans notre Toulousain, et elles ne sont pas si nombreuses pour des familles qui ont conservé leur patrimoine historique, et bien une belle utilisation des lieux. Et nous avons, alors... Là, pour le coup, vous pouvez aller visiter. Une magnifique vue sur la Garonne. Elle tourne le dos aux Pyrénées. On ne regarde pas le sud. Et elle tourne et ne regarde pas non plus le soleil couchant. Mais c'est une très belle propriété.
Très bel endroit.
Situé à Seille. Voilà. Donc, pour revenir à nos amis, à notre hôtel surtout, à nos amis, ça se termine plutôt mal. la fin des Dubourg à Toulouse, après cet épisode aussi.
Donc l'hôtel n'a pas été finalement beaucoup transformé.
Alors, pas à ma connaissance.
Sauf les aménagements intérieurs.
Oui, ils ont rajouté un étage. J'ai lu qu'un étage avait été rajouté. Voilà.
Oui.
Et donc, ça donne lieu à une petite, un escalier complémentaire qui lui-même est fermé par des portes. La façade, pas tellement.
J'ai lu ou j'ai dû lire quelque part que ce grand escalier, enfin, il y a eu des interventions de maçons et de sculpteurs tarnais. Est-ce que c'est exact? Un petit peu, avec un grand escalier qui est un petit peu comme le grand escalier, finalement, qui monte à la salle des Illustres.
Oui, oui, tout à fait, du Capitole. C'est un précurseur.
C'est ça.
C'est pas le premier, mais c'est un des précurseurs. On le montre comme un des modèles d'escalier. Voilà, de bel escalier qui sert l'étage noble. Voilà, donc, je ne sais pas s'il faut... En tout cas, il y a un interphone, hein, on ne peut pas le voir facilement. Mais vous retrouverez le... Alors, l'hôtel de Puyvert, c'est différent. Je pense qu'il y aura une chronique sur l'hôtel de Puyvert.
Ah oui, oui.
Rue Bouquière.
Rue Bouquière, oui.
Je pense qu'il dessert autrement, davantage que le premier étage. Mais c'est un modèle qui va être réutilisé par la suite. Mmh. Très, très reproduit. Donc, la fin de cette histoire, non pas familiale, nous l'avons dit en commençant, mais je dirais de la belle histoire, elle se termine dans le sang, puisque Mathias Dubourg, le fils de ce ménage Valentin et Madame Daliès de Mondonville, il est conseiller parlementaire assez jeune et il va être dans la fournée des magistrats qui sera guillotiné à Paris en 1794. Alors, l'immeuble ne fut pas saisi et resta à ses héritiers, mais on ne sait pas très bien comment, malgré sans doute des enquêtes, toujours la même chose. Hein, ils ont pu le conserver, et ça a été transmis par voie de mariage à la famille de Sevin, qui elle-même l'a transmis à la famille de Roaldès, dont nous avons parlé au tout début.
Eh bien, pour finir, peut-être, le blason de cette famille, l'Illium Inter Spinas.
Alors, tu veux parler de la famille Dubourg?
De la famille Dubourg, oui.
Dont le nom est, à ma connaissance, pas porté à Toulouse.
Eh bien, l'Illium Inter Spinas, qui signifie d'azur à trois tiges d'épines d'argent. Alors, on peut laisser nos auditeurs méditer.
Oui, oui. D'azur et d'argent, c'est... Voilà.
Voilà,
et l'argent est le nerf de la guerre.
Voilà,
heureusement qu'il
a permis
de conserver.
C'est peut-être la condition de conserver. Au fond, plus un blason est simple, et plus on est au cœur
de
des choses.
Mais il faut quand même avoir aussi un peu d'argent.
Bonne semaine.